Bonjour à tous. Donc on va vous présenter aujourd'hui donc un webinaire autour de conseils d'experts. On a différents experts qui sont réunis pour réussir vos vidéos et votre stratégie vidéo. Donc comme je vous le disais, si vous avez des questions tout au long du webinaire, surtout n'hésitez pas à utiliser le petit module de chat. On prendra un moment à la fin du webinaire pour y répondre. Donc voilà, on ne répondra pas forcément pendant le webinaire, mais à la fin, on prendra un temps pour répondre à chaque question. Et puis voilà, si vous avez des problèmes techniques aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Joséphine Gentil et je suis en charge chez Leadcast de tout ce qui va être support et formation. Et je gère aussi les webinaires en interne de notre outil.
Bonjour, donc moi c'est Angélique Aspitarte, je suis aussi chez Leadcast et je suis en charge du contenu, donc du blog, des webinaires, du contenu des webinaires et des e-books, des guides, etc. Voilà.
Bonjour, moi je m'appelle Rémi Gendrieux, je travaille chez Arequipa Productions en tant que directeur artistique.
Bonjour, et moi je m'appelle Émilie Letellier, je suis directrice de production chez Arequipa Productions également.
Donc voilà, vous connaissez un petit peu maintenant tous les experts qui vont intervenir. Je vous fais un bref rappel du plan pour que vous puissiez à peu près vous situer. Donc, dans un premier temps, on aura Angélique qui va nous expliquer un petit peu comment mettre en place une stratégie vidéo, les différents types de vidéos, le matériel nécessaire. Ensuite, donc Rémi et Émilie vont intervenir par rapport à la réalisation vraiment d'une vidéo, la pré-production, la production, la post-production pour vous expliquer toutes les étapes. Et ensuite, Angélique interviendra à nouveau pour vous expliquer au niveau de la diffusion de la vidéo. Comment bien la diffuser, le référencement, les différentes plateformes d'hébergement qui s'offrent à vous. Et puis, donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans un dernier temps, on aura un temps dédié aux questions pour mieux répondre à vos attentes. Alors, donc, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu nos deux entreprises, à la fois Leadcast et Arequipa, très très succinctement, vous inquiétez pas. Leadcast, donc, est une entreprise qui a été créée en 2006 et qui est basée à Bordeaux. On a une dizaine de collaborateurs, on a un peu plus d'une centaine de clients. On est spécialiste à la fois de l'hébergement vidéo dans un player personnalisé sans publicité, avec possibilité de sécuriser vos vidéos, mais aussi spécialiste de la diffusion du live de vos événements, tout comme pour l'hébergement dans un player personnalisé avec le suivi des statistiques en temps réel, et dans une interface de gestion très simplifiée et très autonome. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Je laisse la main à Arequipa, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'ils font au quotidien.
Alors nous, Arequipa, on est une agence de production audiovisuelle. Notre rôle, c'est de créer et d'imaginer des contenus audiovisuels. Pour ça, on a deux pôles. On a un pôle qui fait de la production, donc qui va capter des images avec une caméra et qui va les restituer et les monter pour faire une vidéo. Et on a un pôle studio qui va créer des images en 2D, 3D ou motion design afin de les animer. On a deux adresses, une à Paris, une à Bordeaux, ce qui fait qu'on tourne sur toute la France et on tourne même également à l'étranger, donc on va partout où vous voulez aller. Et puis voilà, notre rôle, c'est de faire de la communication par l'image.
Donc, merci pour cette présentation. Angélique, on te laisse la parole pour nous expliquer la première partie de ce webinaire.
D'accord, merci Joséphine. Alors, la première partie, avant de se lancer dans la vidéo, il faut savoir son objectif. On ne se lance pas dans la réalisation de vidéos si on n'a pas un objectif précis, comme pour toute action marketing, il faut tout le temps savoir pourquoi on le fait. Donc, principalement, nous, on voit chez nos clients qu'il y a plusieurs objectifs, il y en a trois objectifs différents. Le premier, pardon, c'est de former une audience. Le deuxième, c'est de communiquer sur une entreprise ou sur une marque ou voilà, ou sur un produit. Et enfin, le dernier objectif, c'est de vendre un produit ou un service. Donc, suivant cet objectif, vous allez choisir un type de vidéo adéquat parce que toutes les vidéos ne sont pas bonnes pour tous les objectifs. Donc, par exemple, là, je vous ai donné quelques exemples par objectif. Donc, si vous voulez vendre un produit ou un service, vous pourrez vous diriger vers une vidéo interactive où vous pourrez cliquer, par exemple, sur les produits qui sont présentés et inciter à l'action et acheter le produit. Sinon, vous pouvez faire une vidéo de démonstration qui montre bah, toutes les caractéristiques du produit en action, ou une vidéo explicative qui présente juste les caractéristiques du produit sans vraiment montrer comment il fonctionne quand vous l'utilisez. Au niveau de la communication, vous pouvez faire par exemple une vidéo d'entreprise pour montrer un peu la vie de l'entreprise, tout ce qui est communication corporate, comment ça se passe dans l'entreprise, qui travaille, etc. Vous pouvez faire aussi une vidéo témoignage. Donc, nous, on en a fait par exemple chez Leadcast et c'est intéressant parce que ce sont des clients à nous qui parlent enfin, qui, des clients qui vont parler d'un produit ou d'un service qu'ils connaissent, et le bouche à oreille est très important dans la communication, et ça prouve, c'est un message assez neutre et objectif, non biaisé, qui va parler de votre produit ou de votre service. Au niveau de la formation de l'audience, par exemple, vous voulez faire des tutoriels où vous présentez comment fonctionne votre produit, voilà, montrer les astuces ou comment optimiser l'utilisation de votre produit. Vous pouvez faire des webinars qui présentent pareil votre expertise. Vous pouvez faire aussi des MOOC, donc Massive Open Online Courses. C'est des modules de formation qui sont sur plusieurs semaines où vous présentez en vidéo des domaines d'expertise et vous formez votre audience qui répond à des quiz ou à des questions à la fin de chaque module pour avoir acquis des compétences spécifiques. Voilà. Alors après, on nous demande souvent, on se demande même souvent par quoi commencer comme matériel pour faire des vidéos. Donc, il faut savoir que nous, chez Libcast, on a depuis quelques mois décidé de faire un peu plus de vidéos et on a investi un petit peu pour avoir quelque chose de qualitatif. Donc, on a investi environ 800 euros, pour vous donner une idée, pour acheter une caméra et un objectif de bonne qualité. Donc, nous, on est parti sur un Canon, donc c'est un réflexe. À l'origine, c'est pour de la photo. Pour l'utilisation qu'on en a, c'est suffisant. Et on utilise un objectif 50 mm qui nous permet d'avoir un rendu assez professionnel, du moins suffisant pour notre utilisation. On utilise aussi un micro cravate pour le son, parce que le son est meilleur avec un micro externe plutôt que le son de la caméra. Et pour pouvoir bien synchroniser le son de la vidéo et de la caméra, pardon, et du micro, on fait un clap. On utilise le clap comme en cinéma, où on fait vraiment un grand clap pour pouvoir après tout synchroniser sur le logiciel de montage. Au niveau des éclairages, on a aussi investi dans deux petits éclairages. Ça nous a coûté une soixantaine d'euros et ça permet d'avoir une lumière plus diffuse, et comme ça on n'a pas le problème du soleil qui part, qui vient, et voilà, surtout le long du tournage ça reste sur une lumière normale, on va dire. Ensuite, on utilise un prompteur pour si on interview des gens ou si des gens parlent à la caméra. Tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra, donc nous, ce qu'on utilise, c'est une application gratuite, hein, sur tablette. Donc nous, la note, c'est VisioPrompt sur disponible sur tout ce qui est iOS, et comme ça la personne est rassurée, se met plus à l'aise et voilà, et parle naturellement. Alors moi, je conseille à ceux qui sont à l'aise à la caméra de ne pas utiliser de prompteur, bien sûr, mais bon, ça peut aider pour ceux qui sont vraiment très mal à l'aise devant une caméra. Et ensuite, un trépied, bien sûr, pour avoir une image stable et un rendu beaucoup plus professionnel. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour le matériel que si vous voulez en faire en interne. Après, vous avez aussi l'option de faire appel à une agence de production. Et dans ces cas-là, je vais laisser la parole, pardon, à Rikipa Productions, qui va vous expliquer comment ça se passe pour eux.
Oui, alors merci. Donc, effectivement, là, on a vu un petit peu, on va dire, la base pour réaliser une vidéo assez simple. Mais il faut savoir que, en fait, il y a beaucoup d'étapes pour réaliser une vidéo, et que toutes ces étapes sont très importantes, et qu'au sein d'une agence, notre rôle, c'est de suivre l'intégralité de ces étapes du début à la fin, afin d'être optimale et surtout de répondre correctement à votre besoin et faire une vidéo parfaite, en adéquation avec ce que vous attendez. Pour ça, nous, on a trois grandes étapes. On a de la pré-production, de la production et de la post-production. Là, je vais vous parler en premier de la pré-production. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est la préparation pour faire la vidéo, que ce soit une vidéo tournée ou une vidéo qui va être montée ou alors créée en motion design. Ça comprend quoi? Ça comprend la réunion de préparation qu'on va faire avec vous. On va se rencontrer, on va essayer de déterminer les besoins, les cahiers des charges. À la suite de ça, on va faire un brainstorming avec toute l'équipe de créa, et notamment du coup Rémi, qui va essayer un petit peu de penser le concept et de proposer des choses originales. On va vous écrire en fonction de votre besoin un script, un scénario ou même une voix off s'il y a besoin de voix off. Et après, on va organiser tout ce qui va être pour le tournage, en tout cas, c'est-à-dire les lieux de tournage, les autorisations, les comédiens s'il y en a besoin, les droits à l'image, afin de pouvoir venir tourner le jour J. Donc ça, c'est toujours dans la préparation. On va rechercher des comédiens ou des voix off s'il y en a besoin, c'est pas toujours nécessaire. Et on va vous faire tout ce qui est des propositions graphiques et musicales qui serviront après pour le montage. Une fois qu'on a fait toutes ces propositions, qu'on a bien préparé l'intégralité du projet, on va pouvoir se lancer dans la production. Et donc, cette production, elle va être soit pour du film, soit pour du montage. Et je vais laisser Rémi en parler.
D'accord, moi, c'est la partie technique. donc là, on va aborder le sujet de la production. Ça reste un peu pré-production, mais c'est vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le tournage et la construction du film en lui-même, quoi. Donc, une fois que toute cette étape, ces étapes de pré-production ont été établies, nous, on obtient un cahier des charges assez précis, avec un fil conducteur, avec les éléments que l'entreprise veut mettre en avant, que ce soit marketing ou juste communication. Une fois qu'on a tout ça, c'est à nous d'en faire un film. Simplement, c'est pour ça qu'on est payé. Donc, on essaie de faire au mieux possible, donc de récupérer tout ça et de prendre le temps de travailler en adéquation avec le client pour essayer de sortir quelque chose qu'il aime et que nous aimons aussi. C'est l'important dans le monde métier, c'est quelque chose de passionnel. Donc, on essaie de faire quelque chose qui nous plaît à nous et en même temps au client. Ça, c'est assez important. Donc, une fois qu'on a établi un cahier des charges précis, on part en tournage. Donc là, il s'agit de définir le type de caméra qu'on veut utiliser. Imaginons, là, on a parlé par exemple des Canon, des 5D, tous ces appareils qu'on appelle des DSLR. En fait, ces appareils qui sont pratiques, maniables, qui rendent une image cinématographique avec un bokeh. Pour les photographes, ils sauront ce que c'est-à-dire un flou d'arrière-plan qui permet d'avoir un rendu vraiment artistique. Ou, s'il s'agit d'une captation, là, on va plutôt partir sur des caméras prosumer, type caméra épaulière ou quoi, qui ont une bonne sensibilité et qui permettent, en fait, d'être très réactives au niveau de l'autofocus, des choses comme ça. Donc, on a vraiment du matériel assez différent selon les types de tournage. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en compte. On peut pas faire tous les films avec le même matos. Donc, faut définir vraiment quel type de matériel on va utiliser. Idem pour le son. Est-ce qu'on va mettre des micro-cravates ou est-ce qu'on va percher ou est-ce qu'on va prendre un son d'ambiance? Voilà. Donc, ça, c'est au niveau du tournage avant le tournage, on définit ça. Et au niveau du tournage, on arrive avec différents matériels, les différents matériels possibles. Donc nous, on aime bien chez Arequipa, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on aime bien partir à deux. C'est-à-dire, en général, il y a un technicien, ça va être un cadreur, un preneur son, enfin bon, un technicien qui va essayer de faire le tout. Et en même temps, il va partir avec une chargée de production, ou un chargé de production. C'est la personne qui va vraiment faire le lien entre le client et la production de telle qu'elle. Donc, il est là pour servir de lien, pour essayer de... Parce que le technicien, il faut savoir qu'il est sur tournage, il ne peut pas s'occuper du client, de la relation client, donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un. Et en même temps, cette personne va lui servir de fil conducteur, c'est-à-dire qu'il va lui dire, tiens, il faut tourner ci, il faut tourner ça, parce que le client veut ça. Et parfois, le client change d'avis en cours de tournage, ça nous arrive très souvent. Donc, ça permet de s'adapter et de pouvoir faire face à toute éventualité. Et puis, il faut savoir aussi que un tournage ne se passe jamais exactement tel qu'on l'a conçu, parce que, surtout dans le film, dans le marketing, moi, en termes de publicité, on prépare beaucoup plus, mais parfois, il faut prendre des films qui sont sur le vif, pris sur le vif, et là, on contrôle pas les éléments, on contrôle pas l'environnement, donc, il faut s'adapter. Donc, c'est ça qui est assez compliqué parfois, donc c'est bien d'avoir une chargée de prod qui s'occupe de tout ça, qui prévoit heure par heure ce qui va se dérouler dans les minutes qui suivent. Donc, ça, c'est la préparation avec deux personnes donc, sur le tournage.
Alors, au moins... Je rajoute. Au moins deux personnes. Parfois, on a des besoins où on va nécessiter deux caméras, trois caméras, du drone, etc. Des besoins un peu plus lourds, un peu plus complexes. Donc, on part au moins à deux, mais on peut partir à beaucoup plus en fonction de ce que vous demandez.
Ouais, bien sûr,
deux, c'est le minimum pour nous. Voilà.
Donc, ensuite, il y a la phase d'installation matérielle. Alors, je vous rassure, enfin, je vous préviens, mais c'est souvent long, un tournage. Faut pas croire que on arrive, ça peut être très, très vite fait ou quoi. Pour avoir de la qualité, il faut prendre son temps. Donc là, c'est l'installation du matériel. Souvent, ça prend un peu de temps, trois quarts d'heure pour installer les pieds, faire des plans, les éclairages, savoir un peu ce qu'on va faire au niveau de l'image, parce qu'on ne peut pas prendre, on fait pas du reportage télévision. Enfin, en reportage télé, on envoie un GRI qui va filmer, qui va vraiment s'adapter, quel que soit le type d'image. Là, on est vraiment sur une image de qualité. Donc, on fait du marketing, de la publicité, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on installe notre matériel. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et une fois que tout est prêt, que le client est là, le sujet est présent devant la caméra, là on peut envoyer le tournage. Sachant que on essaie, nous, enfin, de, c'est pour ça qu'en général, les gens nous aiment bien, parce qu'on arrive à mettre à l'aise, en fait, les personnes. Oui, c'est vrai que c'est très difficile, parfois, pour les personnes d'être devant une caméra, en fait. Donc, c'est là où, vraiment, l'art de la charge de production rentre en jeu, c'est-à-dire de mettre à l'aise la personne qui est en face de nous, qu'elle puisse, apprivoiser la caméra, savoir quoi dire à la caméra, même si elle a un texte, parfois, elle n'est pas très à l'aise pour le dire face à la caméra. Donc là, il faut avoir une personne en face qui fait une certaine maïeutique. Hein. On essaie de mettre à l'aise la personne pour qu'elle accouche.
Et de prendre le temps, voilà.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, le temps et l'installation. C'est vraiment une chose très importante sur le tournage en lui-même. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit à l'écoute en général, mais ça se passe très bien, souvent.
À chaque fois.
Oui. Donc ensuite, je crois que c'est encore ma partie. Donc là, après, une fois qu'on a fait la pré-production, la production en elle-même, on passe à la post-production. Donc c'est un mot qui est moins connu peut-être du grand public. La post-production, c'est toutes les étapes de montage, d'infographie, d'habillage. Voilà. C'est tout ce qui vient après la production. Une fois qu'on a les images, on les acquiert, c'est-à-dire qu'on les installe sur nos machines. Et à partir de là, ben, c'est un peu la magie du montage. À partir de juste du matériau brut qu'est le matériau filmique, on arrive à sortir un film, un montage, quelle que soit la durée, quel que soit l'habillage. Quoi. Donc c'est vraiment dans la post-production, ça s'opère. Donc on va reprendre étape par étape, je vais aller très vite parce que bon, moi je peux parler pendant 5 heures d'affilée de la post-production, mais je pense que ça ne vous intéressera pas. Donc on va commencer par le dérushage acquisition, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les rushs qui sont sur une carte qui était à l'intérieur de l'appareil, on retire cette carte, on la met dans l'ordi et on acquiert les rushs, on met sur nos disques durs. Ensuite vient la phase de montage, donc on ouvre notre logiciel de montage, notre logiciel de post-production et à ce moment-là, grâce aux rushs, on sélectionne les meilleurs plans. Toujours en suivant notre fil conducteur, notre cahier des charges, et on monte le film, tout simplement. Donc, c'est vraiment un travail de montage, de sonorisation, d'essayer de voir les meilleurs plans qui vont ensemble, tout ça. On fait les transitions, voilà. Et on aboutit à un ours, on appelle ça un ours, c'est-à-dire un montage très brut. Et souvent, c'est ce qu'on fait valider au client, en fait. Ça dépend pourquoi. Quand c'est un film un peu plus artistique, on attend d'avoir un film plus évolué au niveau de la post-production. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une captation, d'un interview, quelque chose que le client veut vraiment contrôler par rapport à son message, on va lui envoyer cet ours. Donc c'est un montage brut hein, qui est pas étalonné, qui est pas habillé, où le son est juste brut, brutal, ainsi que les images. On envoie ça, comme ça il peut faire les coupes lui-même. C'est-à-dire qu'on met un time code et le client dit moi ça me convient, mais de telle minute à telle minute je veux qu'on enlève ou je veux qu'on rajoute ça. Voilà. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en fait, plutôt que de faire les allers-retours incessants. Et avant de commencer le vrai montage, le vrai habillage qui vont prendre beaucoup de temps, le vrai étalonnage, on préfère partir de ce matériau qui a déjà été validé, prévalidé par le client, comme ça on est sûr de savoir où on va. Une fois qu'on a ce montage, si ça a été conclu avec le client, on va passer au motion design, c'est-à-dire que souvent, de plus en plus d'ailleurs, les gens ne se contentent plus d'un film basique, hein, une succession d'images les unes après les autres, ils veulent un habillage graphique. Donc là, ça s'appelle le motion design, le design animé. C'est vraiment, on prend des éléments graphiques qui à l'époque, c'est pas si longtemps que ça, était fixe à l'image, c'est-à-dire un titrage qui restait fixe, un titrage qui était qui apparaissait juste en fond. De plus en plus, les gens maintenant désirent des animations, tout simplement quelque chose qui soit vraiment télévisuel, donc broadcast, qui soit qui donne une qualité, qui donne une plus-value au film, une patine, un habillage, quelque chose qui rende la chose plus intéressante à regarder et aussi plus ludique. Et en même temps pédagogique, en même temps, ce qui permet, avec le motion design, ça nous permet de faire des conducteurs, mais visuels à l'image, vraiment. Une bande qui s'anime et qui permet de rentrer dans l'image pour montrer, raconter une histoire et mettre en exergue certains éléments de l'image et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment le motion design, où on peut vraiment aller vers du pseudo-dessin animé, c'est-à-dire vraiment l'animation des films complètement en motion design, où il n'y a pas du tout de tournage. Où là, vous savez ce que c'est, hein, ça fait donc souvent sur pas mal de produits où on les met carrément en style dessin animé, vous pouvez voir à la télévision ou sur internet. Donc il n'y a plus du tout d'image réelle, il n'y a plus du tout de vidéo, on est sur de l'animation pure. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup grâce à Arequipa Studio, qui est une entité qui est à côté d'Arequipa Production. Donc ensuite, ça rejoint l'habillage. Donc l'habillage, le show design, c'est un peu les mêmes choses hein, maintenant, ça se recoupe, hein, comme je l'ai dit, c'est l'animation, on ne fait plus de titrage fixe, c'est quasiment fini. Une fois qu'on a tout ça, souvent, on fait valider au client pour qu'il nous dise ce qu'il en pense, parce qu'on passe à la phase d'étalonnage quand on attend. Souvent, nous, on est assez bon, donc on fait l'étalonnage en direct à la production, on n'a pas besoin d'en faire trop en post-prod. Mais souvent, il faut rattraper, parce que comme je l'ai dit, on contrôle pas l'environnement de tournage. Donc souvent, il faut rattraper certaines choses. Donc là, c'est la phase d'étalonnage. On reprend image par image, enfin chaque image du montage. On essaie de l'accorder au niveau colorimétrique et luminosité avec le plan d'avant et le plan d'après. Voilà. Pour qu'il y ait une certaine cohérence, une continuité colorimétrique sur tout le film.
Une harmonie.
Une harmonie, c'est ça. Ensuite, on passe au mixage. Donc ça, c'est le son. C'est une étape qui est souvent négligée. Les gens souvent ne comprennent pas qu'ils veulent un film et en fait ça ne vient pas forcément à l'esprit le son. Donc nous on va prendre du temps, on va batailler souvent avec le client pour que le son soit meilleur. Donc ça prend du temps, il faut pas faire de bruit sur les tournages parce que ça peut gâcher un film. Un très beau film peut être complètement gâché s'il s'agissait de vraiment faire une interview ou avoir une captation. Ça peut être gâché justement par un son qui a été bâclé. Donc nous en tournage on essaie vraiment pas toujours, mais on essaie vraiment
d'accorder de l'importance.
Ouais, d'accorder de l'importance et de créer un environnement favorable au son. Donc ça, il faut vraiment que, si vous voulez faire un film, vraiment le prendre en compte. Au tournage, il faudra travailler sur son, c'est-à-dire insonoriser les lieux, essayer de demander aux gens de pas faire de bruit, tout ça. Bref. Mais parfois, il y a toujours des choses qu'on peut pas faire en tournage, donc on les fait en mixage. C'est-à-dire qu'on va augmenter le son d'une voix, baisser celui d'une voiture qui passe derrière. Autant que faire se peut. Mais c'est un métier assez difficile, mais c'est vraiment une part assez importante hein, d'affiner. Une fois que tout est fait, on refait valider forcément au client pour qu'il soit sûr de ce qu'il veut. Et ensuite, une fois que tout est validé, là, on fait un rendu final. Donc les rendus finaux, ça, c'est, on peut faire tous les rendus qu'on veut en standard, en HD, en 2K, 4K, si ça a été tourné en 2K, en 4K. Quel que soit le type de diffusion, on fait la diffusion télé, la diffusion web, la diffusion pour les affichages dynamiques. Pas mal de gens oublient les affichages dynamiques, de plus en plus ça se fait, que ce soit à la gare, dans les aéroports ou quoi, on appelle ça des sucettes, c'est-à-dire des panneaux où il y a des films qui sont diffusés à l'intérieur. Donc voilà, toute la diffusion, le rendu, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'on encode selon les formats de pixels qu'on nous a demandé, selon les formats qu'on nous a demandé. Et ensuite, on livre le film. Et après, c'est vous qui diffusez.
Et donc, de façon globale, en fait, chez Arequipa, du début à la fin du chaînon, que ce soit la pré-production, la production, la post-production, vous avez un interlocuteur qui est donc un dire prod qui vous gère, en fait, qui gère le projet, avec lequel vous allez échanger tout le long du projet. Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent sur la vidéo, que ce soit le cadreur, le réalisateur, le monteur, le motion designer, il y a beaucoup d'interlocuteurs équipe, mais vous faites pas appel à ces personnes-là une par une, sinon vous y retrouvez pas. Vous avez un interlocuteur unique, c'est pour ça que cette personne est présente sur le tournage, est présente sur le montage et vous accompagne et vous permet à vous surtout de faire vos commentaires et d'échanger pour qu'on puisse nous avancer après avec l'équipe. Voilà.
Très bien. Donc merci à Émilie et Rémi pour toutes ces explications. Donc là, on part du principe que vous avez votre vidéo, elle est terminée. Maintenant, vous vous posez la question de comment la diffuser. Votre objectif, c'est qu'elle soit vue par les personnes de votre cible, les personnes qui sont ciblées par cette vidéo. Donc sur Internet, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez les plateformes d'hébergement vidéo gratuites et les plateformes vidéo payantes. Donc je vais faire un peu un comparatif entre les deux et vous donner les caractéristiques principales de ces deux plateformes vidéo. Donc au niveau d'une plateforme vidéo gratuite, comme par exemple le plus connu, c'est YouTube, c'est sa plus grande particularité, c'est que bon, forcément c'est gratuit, mais vous avez des petits désavantages à côté de ça. Vous avez par exemple de la publicité qui est affichée sur les vidéos, elle est affichée avant la vidéo, pendant, même après, et vous avez tout ce qui est vidéo suggérée sur les côtés. Donc tout ça, ça peut détourner l'attention de l'internaute qui regarde la vidéo. Pareil, vous avez le logo de la plateforme qui est affiché sur le player. Vous avez peu de personnalisation possible. Et par contre, le partage de la vidéo est beaucoup plus simple et facile parce que vous avez juste vous avez plein de vidéos suggérées. Donc, votre vidéo peut aussi s'afficher sur d'autres vidéos. Alors, c'est pertinent d'utiliser ce genre de plateforme quand votre cible est très large. Vous avez besoin de toucher une très large audience. Et par exemple, dans le cas d'une communication externe où vous voulez parler de votre marque, de votre entreprise, là, ça peut être pertinent d'être sur une plateforme vidéo gratuite. Alors, on dit que c'est plus adapté dans un contexte B2C. Voilà, donc après, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. au niveau des plateformes vidéo payantes, donc par exemple comme nous, Libcast. Donc nous, on propose un player totalement personnalisable avec le logo, les couleurs. Vous pouvez ajouter des call to action qui renvoient vers une landing page, vers un site internet, vers un formulaire. Vous avez voilà, plein de choix. On n'a aucune publicité sur ce genre de player vidéo payant. Et c'est plutôt adapté pour une, si vous voulez cibler une audience restreinte. Donc, généralement, ces plateformes, elles proposent des fonctionnalités avancées pour vous permettre de restreindre donc la diffusion, soit par la demande d'un code d'accès, par un nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous pouvez aussi décider que ces vidéos, elles seront visibles seulement sur votre intranet, par exemple, ou sur un site internet donné. Si vous mettez le code embed sur un autre site, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez décider de restreindre aussi l'accès par une adresse IP pour restreindre la diffusion seulement à une entreprise et au réseau internet d'une entreprise. Et à côté de ça, vous avez aussi des statistiques avancées qui vous permettent de savoir les moments de la vidéo qui ont été vus ou revus par votre audience et ce qui a pêché ou voilà, pour vous améliorer au fil du temps. Vous pouvez voir aussi quels appareils ils utilisent pour regarder vos vidéos et d'où ils viennent, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus adapté dans un contexte B2B ou dans un contexte professionnel. Dans la formation, par exemple, c'est très intéressant parce que les vidéos de formation, généralement, ne sont pas destinées à être vues par tout le monde. Et où la communication interne, pareil, très bon exemple. Après, la communication externe, c'est aussi très, très intéressant si vous ne voulez pas de publicité et que votre audience soit vraiment captivée par votre vidéo. Et voilà, donc après... libre à vous de faire le choix par rapport à votre objectif. Encore une fois, ça dépend de votre objectif final. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils. C'est vrai qu'on nous demande parfois aussi, ma vidéo, je trouve qu'elle n'est pas beaucoup vue, je ne sais pas pourquoi. Alors nous, on a quelques conseils à vous donner. C'est par exemple déjà améliorer la vignette de la vidéo. Donc toutes les plateformes d'hébergement vidéo vont vous générer une vignette. Donc c'est l'image qui sera affichée lorsque l'internaute verra votre vidéo sur un site internet. Donc, par exemple, là, vous avez sur la gauche une vignette qui a été auto-générée. Donc, vous voyez Joséphine, donc c'est Joséphine sur la photo, qui parle, qui est en train de parler. On ne sait pas de quoi elle parle, on ne sait pas... Ça ne donne pas beaucoup de renseignements sur la vidéo. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une vignette vraiment personnalisée. Donc là, vous l'avez sur la droite, par exemple. Donc, on a pris une photo de Joséphine. On a rajouté par-dessus le texte, le titre de la vidéo. Il faut l'écrire en assez gros, pas beaucoup de mots pour que ce soit visuel, que les gens le voient, que ce soit sur tablette, sur smartphone ou sur ordinateur. Et n'oubliez pas que la vignette, c'est la porte d'entrée vers votre vidéo. Donc, il faut qu'elle attire l'œil et que les gens aient envie de cliquer. Dans le même objectif, vous devez améliorer le titre de la vidéo qui va ça. Donc quand vous allez charger votre vidéo sur la plateforme d'hébergement, vous allez certainement avoir un titre. Par exemple, bon ben là c'est le titre de la vidéo brute. Moi quand je vois MVI 7849.move, ça me donne pas envie de cliquer. Par contre, si on me dit améliorer le titre d'une vidéo, je sais de quoi ça va parler. Et je ne vais pas être déçue et je saurai à quoi m'attendre quand je vais cliquer. Donc là, vous avez plusieurs types de titres, on va dire. Soit vous pouvez faire un titre incitatif, donc vous aiguisez la curiosité de votre audience avec un titre un peu accrocheur, découvrez je ne sais quoi, quelque chose les gens vont cliquer pour savoir ce dont vous parlez. Ou alors, vous faites un titre informatif, comme donc améliorer le titre d'une vidéo. Vous savez qu'on va parler de l'amélioration d'un titre d'une vidéo. Et là, du coup, on voit que les résultats sur l'engagement et sur l'attention de l'utilisateur sera meilleur parce qu'ils savaient à quoi s'attendre et donc ils sont intéressés par la vidéo. Aussi, si vous voulez être visible par exemple sur les moteurs de recherche, je vous conseille de rajouter une métadescription avec... vraiment en quelques lignes comme en fait, ça s'appelle du vidéo SEO, donc c'est comme le SEO. Vous faites quelques lignes sur la vidéo, vous mettez des mots-clés et Google pour le plus célèbre, mais les moteurs de recherche feront remonter votre vidéo voilà, dans les premiers résultats suivant vos mots-clés et votre méta-description. Et dans ces cas-là, votre vidéo sera vue par les personnes que vous ciblez et vous aurez les résultats que vous attendez. Voilà.
Merci Angélique et merci à tous pour tous ces conseils. On a fait le tour à peu près de ce qu'on souhaitait aborder avec vous. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui sont apparues tout du long du webinaire, donc on va commencer par répondre à celles-ci. Si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser donc le petit moteur de chat. Donc on avait donc une première question, à savoir si Arequipa donc faisait du live, faisait de la diffusion live.
Ouais. Rémi, on en a fait pour le live, pour le streaming en live. Ça dépend en fait de ce que veut le client. En fait, c'est toujours pareil. Mmh. C'est qu'il y a des retransmissions en live avec du multicam, c'est-à-dire plusieurs caméras qui se succèdent à l'image. C'est un montage en direct. Donc, on en a fait. C'est cher, tout simplement. C'est parce qu'il faut une console de réalisation, il faut plusieurs entrées de ça. Sinon, si c'est juste du streaming, voilà, genre style Periscope ou quoi. C'est pas notre cœur de métier, voilà, là, quoi. Ça c'est sûr. Donc non, on se base plutôt sur vraiment des captations, voilà, on l'a fait sur des grands événements, voilà. Mais c'est peut-être pas ce qui vous intéresse, voilà. Sur le streaming individuel, c'est beaucoup plus facile de le faire soi-même en fait que de faire appel à une boîte de production, ça c'est sûr.
Notre métier va plus dans la création, l'imagination, la production de vidéos plutôt que la retransmission en live, qu'on fait parfois effectivement. Voilà. Pour un service ou pour certains clients, mais c'est pas notre cœur de métier.
Et puis juste pour ajouter, alors nous on n'aura pas les moyens techniques, donc comme Arequipa peut avoir les caméras, les prises de son, mais on a une solution technique pour vous permettre de diffuser en live, donc avec des flux, des sessions, des points de montage. Donc voilà, on peut être complémentaire, on a chacun nos compétences, mais voilà, si vous avez des
en fonction de votre besoin,
voilà. Ouais. On vous laissera une adresse email différente pour que vous puissiez après nous contacter pour nous expliquer un peu plus à chacun en fonction de votre besoin le projet qu'il y a derrière aussi. Donc on a eu une autre question donc concernant des logiciels de montage, des conseils, quel logiciel de montage utiliser pour le son, pour.
Alors nous on utilise une suite professionnelle qui est la suite Adobe, qui est la plus connue sur le marché. Après. Pour monter chez vous, moi je peux, enfin, peut-être le plus facile, c'est vrai, c'est iMovie sur Mac, des choses comme ça. Forcément, vous serez très limité par rapport à un montage, par rapport à un rendu professionnel, ça c'est sûr, quoi. Surtout que montage, c'est assez facile de mettre les images les unes derrière les autres. Le problème, c'est que c'est régler les problèmes, en fait. Nous, on passe notre vie à régler les problèmes, en fait. C'est ça le métier d'un monteur. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment un métier. Et en plus, au-delà de ça, si vous voulez vraiment un habillage tout, là, on passe dans la post-production, vraiment dans le chaîne design. Et là, on utilise, voilà, le logiciel professionnel. Donc, si la question, c'est vraiment quel logiciel je peux utiliser, oui, vous pouvez utiliser votre logiciel, que ce soit sur votre PC ou sur votre Mac. Vous avez toujours des suites de logiciels. Même, je crois qu'il doit exister chez il y a Sony Vegas, vous avez
Windows Movie Maker aussi.
Vraiment très basique. Oui. Mais même sur PC, vous avez pas mal de suites qui sont des versions light, en fait, des logiciels de montage pro. Il doit exister une version de première, peut-être light. À l'époque, ça existait, je sais plus si ça existe toujours. Mais vous trouverez facilement sur n'importe quel site de revendeur des versions light. Et ça suffit pour faire un montage du homemade, quelque chose que vous pouvez faire vous-même, tout ça, c'est pas du tout un problème. Et vous serez forcément bien limité par rapport à ce que nous, on peut faire. Mais ça, c'est pas le même métier, c'est pas du tout la même chose, quoi.
On a eu une autre question concernant le droit à l'image, de savoir comment ça se passe quand j'interview une personne, quels sont les droits de diffusion, voilà. Je sais pas si Angélique ou si vous...
Tu veux répondre ?
Alors nous, je vais parler de notre cas pour Libcast. Donc on a fait des vidéos témoignages, donc on a demandé à toutes les personnes interviewées de signer une décharge pour nous dire qu'ils acceptaient que leur image soit associée à notre entreprise et que voilà, qu'ils acceptent que leur image soit diffusée sur notre site internet. Ensuite, on a demandé aussi une autorisation pour l'entreprise, donc pour le nom de l'entreprise, qu'ils acceptent d'utiliser leur nom pour sur notre site internet, qu'ils acceptent que leur nom soit utilisé sur notre site internet, pardon. Et ensuite sur
les locaux.
Sur les locaux.
Sur les locaux, si au niveau architectural, s'il y a certains bâtiments qui nécessitent, qui sont protégés, qui ont été réalisés par tel ou tel architecte et qui nécessitent des droits à l'image spécifiques, il y a aussi nécessité, tout comme pour une personne physique, d'avoir des droits aussi de captation sur ça.
Alors moi, je vais répondre de façon aussi un peu plus générale. Là, vous posez la question pour les interviews. Voilà, qu'est-ce que je dois faire pour les droits à l'image pour les interviews? En fait, de façon générale, quand vous faites de la com externe, c'est-à-dire que quand vous faites une vidéo qui va être diffusée sur les réseaux sociaux, sur des plateformes, etc., il faut que toutes les personnes qui soient présentes dans la vidéo vous aient donné l'autorisation, qu'elles soient interviewées ou pas. Je m'explique, si une personne est à l'image en train de faire quelque chose ou juste derrière, etc., mais qu'elle est vraiment reconnaissable et visible, il faut que cette personne vous ait autorisé au préalable via un document qu'elle a signé et daté, qu'elle vous donne l'autorisation d'utiliser son image et donc à des fins précises pour telle ou telle vidéo. Si c'est pas le cas et si vous demandez pas autorisation mais que vous diffusez ensuite la vidéo, vous risquez d'avoir des soucis avec cette personne qui peut se retourner contre vous et vous dire « mais attends, je t'avais pas donné l'autorisation » et elle a le droit de le faire. Donc il faut vraiment être très attentif à ça. C'est comme les droits musicaux, j'arrête pas de le répéter. Beaucoup de gens montent des vidéos et mettent Madonna et après mettent cette vidéo sur YouTube & Co. C'est très dangereux de faire ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut que tous les supports musicaux que vous incluez dans votre vidéo soit vraiment libre de droits, parce que voilà, il y a des droits à payer pour tout l'usage qu'on fait, et notamment la musique, et c'est très important.
Et sachez que c'est le diffuseur qui est responsable, pas la production. C'est-à-dire que si on vous donne un film, vous avez exigé telle musique prise dans le commerce, que nous, on le met parce que vous êtes nos clients, c'est vous qui serez responsable si vous la diffusez. C'est-à-dire que nous, vous ne pourrez pas vous retourner contre nous, c'est le diffuseur qui est responsable.
Donc, merci pour ces compléments. Alors, on a une autre question. Si on peut taguer une vidéo avec des mots-clés. Donc en fait, lorsque vous avez publié votre vidéo sur une plateforme d'hébergement vidéo, vous avez forcément la possibilité de rajouter des mots-clés. Alors, c'est plus élaboré sur les plateformes payantes, mais c'est aussi le cas sur les plateformes gratuites. Et donc là, vous renseignez effectivement tous vos mots-clés comme tout outil, vous mettez votre mot-clé, virgule, ça vous met un autre mot-clé, etc. Et là, après, les moteurs de recherche vont pouvoir identifier que votre vidéo correspond à tel mot-clé. Et aussi, il y a aussi une autre possibilité pour tout ce qui est vidéo SEO, vous pouvez aussi faire la transcription de votre vidéo. Donc, tout le texte de la vidéo sera lu par le moteur de recherche. Donc là, vous remontrez aussi grâce à la transcription et le sous-titrage. Ouais.
On a une autre question, hein. C'est très, très bien parce qu'on a beaucoup d'échanges et donc c'est agréable aussi de pouvoir donner notre avis et donc d'échanger aussi avec vous. Donc une autre question concernant le stockage des vidéos, si on peut le mettre sur son propre site web, les avantages et les inconvénients. L'inconvénient, je dirais, c'est que déjà au niveau du player, vous n'avez pas forcément à avoir un player brandé avec votre nom, player personnalisé. L'avantage, vous êtes maître, entre guillemets, de votre contenu, mais vous ne savez pas non plus forcément où il est hébergé.
Il y a un très gros avantage de mettre la vidéo sur votre site web, c'est au niveau de la place, la taille, la bande passante. C'est-à-dire que si vous faites, si vous avez votre site hébergé, je ne sais pas, chez OVH, il vous file 10 gigas pour héberger votre site. Bon, mais déjà, vous mettez une vingtaine de vidéos, c'est plein. Et surtout, la bande passante ne sera pas proportionnée pour lire la vidéo. C'est-à-dire qu'ils vous donneront un accès à certaines bandes passantes, quelques mégas. Alors que des vrais diffuseurs de vidéos, ils ont des centaines de gigas de bandes passantes. Il peut y avoir 5000 personnes qui se connecteront en même temps sur la même vidéo. Elles n'auront pas de ralentissement. Donc, si vous hébergez sur votre propre site web, c'est à peu près sûr que si deux personnes lisent la même vidéo en même temps, le site sera mort. Voilà, c'est très important de faire appel à des diffuseurs professionnels.
Alors, on a d'autres questions. Les outils que vous utilisez pour les montages vidéo, alors ça, on en a déjà un petit peu parlé, des logiciels...
suite Adobe, Premiere, After Effects.
Et donc, des logiciels éventuellement pour du motion design?
After Effects. Donc, voilà, suite Adobe, c'est bien, c'est une suite qui prend tout en compte. Son, image, motion design. À côté de ça, nous, on fait de la 3D, avec Cinema 4D. Donc, c'est vraiment ces logiciels qui correspondent bien entre eux, qui sont liés entre eux au niveau sa dynamique. On appelle ça des pipelines, en fait. Chaque logiciel a un pipeline qui le relie à un autre logiciel, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire des rendus intermédiaires pour passer d'un logiciel à un autre. Donc ça, c'est très pratique. Et donc c'est After Effects. Si vous voulez vous mettre en motion design, vous avez des centaines de milliers de tutoriels sur Internet.
Donc, vous si vous avez deux ans à tuer, c'est...
Donc voilà, c'est ça qu'on utilise.
D'accord. Alors, on a éventuellement une autre question, de savoir au niveau du smartphone, si on peut utiliser un... Alors, on a c'est peut-être aussi...
Alors, nous, on a été confrontés plusieurs fois, alors, même pour des gros clients.
Capté avec un smartphone.
Oui, oui. Pour faire des films. Alors, voilà, c'est toujours ce que vous voulez. En fait, si vous voulez un film qualitatif, c'est-à-dire avec une image léchée, tout ça, n'y pensez même pas. Parce que même si, que ce soit chez Android ou chez iOS, les smartphones maintenant, ils vous font miroiter des énormes capteurs à 12 mégapixels, mais c'est pas du tout ça qui fait la qualité d'une image. La qualité de l'image, c'est la sensibilité du capteur et l'objectif. Bon, ben, sur un smartphone, l'objectif, c'est assez basique. Hein, et c'est vraiment pas sensible. Donc, alors que les caméras professionnelles, vous pouvez filmer avec une très faible lumière, c'est pas un problème. Vous pouvez changer d'objectif. Régler l'image, enfin, vous adapter à l'image qui est en face de vous. Voilà, c'est la grande différence. Mais cependant, si parfois il se peut que bon, on peut pas filmer des choses qui ont été captées par le smartphone, on nous a demandé plusieurs fois de faire des montages par rapport à des choses qu'on pouvait pas les filmer parce que c'était déjà passé et que c'était les gens qui avaient dû le filmer avec leur smartphone. Voilà, on peut faire un film. Le rendu est, si vous voulez un rendu très dynamique, un espèce de rendu, comment dire, déstructuré ou quoi, ça passe très bien parce que c'est pas tellement la qualité d'image qui importe. Mais vraiment, que sur ça, enfin, c'est possible. Après, le reste, ça va plus, en fait, vous allez plus perdre de temps à améliorer une image venant d'un smartphone. Ça va vous coûter plus cher, en fait, en post-prod d'améliorer une image venant d'un smartphone plutôt que de tourner une image qui sera correcte. Et donc là, en post-prod, on passera beaucoup moins de temps à la nettoyer, à la stabiliser, à faire un montage efficace, quoi. Donc, vraiment, essayez de ne pas filmer vraiment avec les smartphones. C'est vraiment pas la chose. C'est vraiment pour des souvenirs, smartphone. Après, on vous fait mourater. Je sais que, beaucoup de publicités vous montrent des super photos ou des superbes films et ils vous disent c'est filmé avec tel téléphone. Non, ça a été filmé et monté par des professionnels qui ont passé des jours et des jours dessus pour vous rendre cette qualité. C'est voilà, sachez-le.
Et une dernière question qui va nous permettre de terminer sur ça, de savoir quand est-ce qu'on peut dire qu'une stratégie vidéo est vraiment réussie. Certains indicatifs.
Bah après ça va dépendre de vos objectifs forcément, hein. C'est si vous remplissez vos objectifs, on peut dire que la stratégie vidéo est réussie. Donc ça peut être le nombre de ventes qui augmente, ça peut être le nombre de contacts récoltés grâce à un call to action sur une vidéo, le nombre de partages, le nombre de vues tout simplement, ou
ouais. J'ai un exemple.
Oui,
j'ai un exemple client. Il y a un client qui, on a fait une vidéo pour lui la semaine dernière. Il a diffusé cette vidéo mardi et mercredi, donc 24 heures après, il avait eu 150 vues sur son compte. Et il avait gagné 25 nouveaux clients. Ah, c'était un truc de logiciel en fait pour se connecter. Et donc en 24 heures, il a gagné 25 clients. Donc il nous a fait un mail complètement élogieux. voilà. Et ça, c'est un vrai impact. C'est-à-dire que oui, il a fait une vidéo. Il l'a faite parce qu'il y croyait. Mais voilà. Mais il y a un vrai impact derrière. Et là, notamment, l'impact est commercial pour lui parce qu'en 24 heures, il avait récupéré 25 clients. Et à son échelle, c'était quand même assez conséquent.
Et en moyenne, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien le coût de la vidéo lui est revenu
Alors après, oui, alors on nous demande souvent combien coûte une vidéo. C'est une question extrêmement délicate parce que nous, on fait de la couture. C'est-à-dire on est vraiment dans le sur-mesure en vidéo. C'est-à-dire que chaque vidéo est différente en fonction de votre cahier des charges, votre besoin, ce que vous en attendez. Du coup, ce sera forcément des coûts différents. Donc, une vidéo pourra vous coûter 1 000 euros et pourra vous coûter 60 000 euros en fonction de ce que vous souhaitez. Toutefois, une vidéo, ça ne coûte pas forcément très cher. Du coup, il est judicieux parfois juste de demander. Ça ne coûte rien de demander, dire voilà, mon besoin, c'est ça. Il faut que j'interviewe telle personne. J'aimerais mettre en image tel produit. Combien ça coûte? Et nous, on est là pour vous conseiller, vous accompagner et essayer aussi de s'adapter un petit peu à votre budget. C'est-à-dire que si vous avez un budget serré, ce qui est en tout cas en ce moment beaucoup la tendance, les gens n'ont pas forcément les sous à mettre dans ce domaine-là. Nous, on est là pour quand même vous proposer des solutions et vous permettre de réaliser quelque chose de convenable en vidéo qui puisse rentrer dans votre enveloppe.
Voilà. Ça intéresse ce que tu veux. Ouais. Super. Mais merci à vous pour votre présence et puis vos nombreuses questions. On espère que ça vous a plu et puis que vous avez trouvé vraiment les réponses à vos questions. Donc, on espère voilà, vous revoir très vite, peut-être, pourquoi pas, pour un prochain webinaire. Excellente fin d'après-midi. Et puis...
Merci.
Au revoir.
Au revoir.